Chapitre 6.
Le café du Châtaignier était presque vide. Une fenêtre laissait passer un rayon de soleil qui tombait, oblique, sur les tables poussiéreuses. Il était 15:00, l'heure solitaire. Les écrantelles déversaient une musique métallique. Winston était assis à son coin habituel, regardant le fond de son verre vide. De temps en temps, il jetait un œil à un vaste visage qui le regardait depuis le mur opposé. « Big Brother te regarde », était-il écrit. Sans qu'on lui demande, un garçon vint emplir son verre avec du gin de la victoire, qu'il mélangea avec quelques rasades d'une autre bouteille, dont le bouchon était orné d'une plume. C'était de la saccharine aromatisée au clou de girofle, la spécialité du café. Winston écoutait l'écrantelle. Pour le moment, il ne diffusait que de la musique, mais un bulletin du ministère de la Paix pouvait tomber à tout instant. Les nouvelles du front africain étaient extrêmement inquiétantes. Cela l'avait inquiété toute la journée, par intermittence. Une armée eurasienne, l'Océanie était en guerre avec l'Eurasie, l'Océanie avait toujours été en guerre avec l'Eurasie, se dirigeait vers le sud à une vitesse terrifiante. Le bulletin de la mi-journée n'avait pas indiqué une région précise, mais l'embouchure du Congo était déjà probablement un champ de bataille. Brazzaville et Léopoldville étaient en danger. On n'avait pas besoin de regarder la carte pour comprendre ce que cela signifiait. Il ne s'agissait pas seulement de la perte de l'Afrique centrale. Depuis la première fois de toute la guerre, le territoire de l'Océanie lui-même était menacé. Une violente émotion, pas exactement de la peur, mais une sorte d'excitation indifférenciée, s'empara de lui, puis disparut. Il cessa de penser à la guerre. Il ne pouvait plus désormais fixer son esprit sur un même sujet pendant plus de quelques instants. Il prit son verre et le vida d'un trait. Comme toujours, le gin le fit frissonner, et il eut même un léger haut le cœur. Le mélange était horrible. Les clous de girofle et la saccharine, déjà assez écœurants en eux-mêmes, ne parvenaient pas à masquer cette senteur d'huile douceâtre, et le pire de tout c'était que l'odeur du gin, qui ne le quittait ni le jour ni la nuit, était dans son esprit inextricablement liée à l'odeur de ses... Il ne les nommait jamais, même dans ses pensées, et autant qu'il était possible, il ne les visualisait jamais. Ils étaient quelque chose dont il était à demi conscient, rôdant près de son visage, une odeur qui s'attachait à ses narines. Le gin lui remonta, et il rôta entre ses lèvres violettes. Il avait grossi depuis qu'il l'avait libéré, et il avait retrouvé ses anciennes couleurs. En fait, il avait fait plus que les regagner. Ses traits s'étaient épaissis, la peau sur son nez et ses joues étaient d'un rouge grossier, même son crâne chauve était d'un rose trop vif. Un serveur, à nouveau sans qu'on ait besoin de lui demander, amena l'échiquier et le dernier numéro du Times, ouvert à la page du problème d'échec. Puis, voyant que le verre de Winston était vide, il amena la bouteille de gin pour le remplir. Il n'y avait nul besoin de lui donner des ordres. Il connaissait ses habitudes. L'échiquier l'attendait toujours, sa table dans le coin était toujours réservée, même quand l'établissement était plein, il l'avait pour lui, puisque personne n'avait envie de s'asseoir trop près de lui. Jamais il ne se souciait de compter ses verres. À intervalles réguliers, il lui présentait un morceau de papier sale, qui était censé être l'addition, mais il avait toujours l'impression qu'on ne lui faisait pas payer tout ce qu'il devait. Cela n'aurait fait aucune différence si ça avait été le contraire. Maintenant, il avait toujours beaucoup d'argent. Il avait même un travail, une sinécure, bien mieux payée que son ancien emploi. La musique de l'écrantelle s'arrêta et fut remplacée par une voix. Winston redressa la tête pour écouter. Aucun bulletin du front, toutefois. Ce n'était qu'une brève annonce du ministère de l'Abondance. Au cours du précédent trimestre, il se trouvait que le quota de lacets avait été dépassé de 98%. Il examina le problème d'échec et installa les pièces. C'était un problème délicat qui impliquait deux cavaliers. Les blancs font mat en deux coups. Winston leva les yeux vers le portrait de Big Brother. Les blancs font toujours mat, pensa-t-il, avec une sorte de mysticisme nébuleux. Toujours, sans exception, c'est ainsi. Jamais les noirs n'avaient gagné dans aucun problème d'échec depuis le commencement du monde. Cela ne symbolisait-il pas l'éternel, l'inévitable triomphe du bien sur le mal? Le vaste visage lui retourna son regard, plein d'une calme puissance. Les blancs font toujours mat. La voix de l'écrantelle fit une pause et ajouta d'un ton plus grave.
« Vous êtes averti qu'une annonce importante sera faite à 15h30. Des nouvelles de la plus haute importance. Ne les manquez pas. 15h30. »
La musique métallique recommença. Le cœur de Winston se serra. C'était le bulletin du front. Son instinct lui disait que de mauvaises nouvelles s'annonçaient. Toute la journée, avec de petites bouffées d'excitation, la pensée d'une défaite écrasante en Afrique l'avait obsédé. Il lui semblait voir véritablement l'armée eurasienne se répandre au-delà de la frontière jusque-là inviolée et redescendre l'Afrique comme une colonie de fourmis. Pourquoi n'avait-il pas été possible de les prendre de flanc, d'une façon ou d'une autre? Le contour de la côte ouest de l'Afrique se dessinait précisément dans son esprit. Il prit le cavalier blanc et le déplaça sur l'échiquier. C'était là le bon endroit. Tandis qu'il imaginait la horde noire se précipitant vers le sud, il voyait une autre force, assemblée mystérieusement, se plantant soudain sur ses arrières, coupant ses communications terrestres ou navales. Il sentit que par sa volonté, il amenait cette autre force à l'existence. Mais il était nécessaire d'agir vite. S'ils pouvaient s'emparer de toute l'Afrique, s'ils avaient des bases aériennes et des bases sous-marines au Cap, cela couperait l'Océanie en deux. Cela pourrait signifier la défaite, le malheur, la redéfinition du monde, la destruction du parti. Il respira profondément. Un extraordinaire mélange de sentiments, mais ce n'était pas exactement un mélange, plutôt des couches successives de sentiments, dont on ne pouvait dire laquelle était la plus profonde, s'affrontait en lui. Le spasme cessa. Il remit le cavalier blanc à sa place, mais pour le moment il ne pouvait se mettre à étudier sérieusement le problème d'échec. Ses pensées se mirent à nouveau à vagabonder. Presque inconsciemment, il écrivit avec son doigt sur la poussière de la table « 2 plus 2 égale 5 ». « Ils ne peuvent pas entrer en toi », avait-elle dit. « Mais ils pouvaient entrer en vous. »
« Ce qui vous arrive ici, c'est pour toujours »,
avait dit O'Brien. C'était la vérité. Il y avait des choses, vos propres actes, dont vous ne pouviez vous remettre. Quelque chose était tué, dans votre poitrine, brûlé, cautérisé. Il avait vu Julia. Il lui avait même parlé. Ce n'était pas dangereux. Il savait presque instinctivement qu'il ne s'intéressait plus du tout à ses actes. Il aurait pu organiser une seconde rencontre si l'un des deux l'avait voulu. En fait, c'était par hasard qu'ils s'étaient rencontrés. C'était au parc, un jour de mars, d'un froid mordant. La terre était dure comme du fer et l'herbe semblait morte et il n'y avait pas le moindre bourgeon, à part ceux de quelques crocus qui n'avaient poussé que pour être démembrés par le vent. Il se hâtait, les mains gelées et les yeux humides, quand il la vit à moins de 10 mètres de lui. Il fut frappé de voir qu'elle avait changé d'une façon difficile à définir. Ils se croisèrent presque sans un signe, puis il fit demi-tour et la suivit, sans enthousiasme. Il savait qu'il n'y avait pas de danger. Personne ne s'intéressait à lui. Elle ne parla pas. Elle coupa obliquement à travers la pelouse, comme pour essayer de se débarrasser de lui, puis sembla se résigner à la voir à ses côtés. À ce moment, ils étaient au milieu d'un bouquet d'arbustes sans feuilles. Inutile que ce soit pour se dissimuler ou pour se protéger du vent. Ils s'arrêtèrent. Il faisait terriblement froid. Le vent sifflait à travers les branches et agitait quelques crocus à l'air malade. Il passa le bras autour de sa taille. Il n'y avait pas d'écrantelle, mais il devait y avoir des micros dissimulés. De plus, il pouvait être vu. Cela n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance. Ils auraient pu s'étendre sur la pelouse et le faire s'ils avaient voulu. La chair de Winston frémit d'horreur à cette seule pensée. Elle ne répondit pas à l'étreinte de son bras. Elle ne chercha même pas à se dégager. Il savait maintenant ce qui avait changé en elle. Son visage était plus cireux et une longue cicatrice, partiellement cachée par sa chevelure, traversait son front et sa tempe. Mais ce n'était pas là que résidait le changement. C'était sa taille qui était devenue plus épaisse et, d'une façon surprenante, c'était raidi. Il se souvint qu'une fois, après l'explosion d'une roquette, il avait aidé à tirer un corps des ruines et avait été sidéré non seulement du poids de la chose, mais aussi de sa rigidité et de la difficulté à la manipuler, qui donnait plus l'impression de la pierre que de la chair. Son corps évoquait cela. Il vint à l'esprit de Winston que la texture de sa peau devait être très différente de ce qu'elle avait été. Il n'essaya pas de l'embrasser, et ils ne parlèrent pas. Tandis qu'il faisait demi-tour sur l'herbe, elle le regarda en face pour la première fois. Ce ne fut qu'un coup d'œil momentané, plein de mépris et de dégoût. Il se demanda si cette aversion venait simplement du passé, ou si elle était inspirée par son visage bouffi et les larmes que le vent continuait à faire couler dans ses yeux. Ils s'assirent sur deux chaises de fer, côte à côte, mais pas trop près l'un de l'autre. Il vit qu'elle était sur le point de parler. Elle déplaça maladroitement sa chaussure de quelques centimètres et écrasa délibérément une brindille. Ses pieds semblaient s'être élargis, remarqua-t-il. « Je t'ai trahi, » dit-elle abruptement.
« Je t'ai trahi, »
dit-il. Elle lui jeta un nouveau regard d'aversion. « Parfois, » dit-elle, « il te menace de quelque chose que tu ne peux pas supporter, auquel tu ne peux même pas penser. Et alors tu dis, « Ne le faites pas à moi, faites-le à quelqu'un d'autre, et ceci et cela. » Et tu peux peut-être prétendre après coup que c'était juste une ruse, et que tu l'as dit seulement pour qu'ils arrêtent, et que tu ne le pensais pas. Mais ce n'est pas vrai. Quand ça t'arrive, tu le penses vraiment. Tu penses qu'il n'y a pas d'autre moyen de te sauver, et tu es tout à fait prêt à te sauver de cette façon-là. Tu veux que ça arrive à l'autre, tu te fiches bien de sa souffrance. Tout ce dont tu te préoccupes, c'est de toi-même.
« Tout ce dont tu te préoccupes, c'est toi-même. »
fit-il en écho. « Et après ça, tu ne te sens plus la même envers l'autre personne ?»«
Non, »
dit-il.
« Tu ne te sens plus le même. »
Il ne semblait pas y avoir beaucoup plus à dire. Le vent plaquait leur fine tenue de travail contre leur corps. Presque immédiatement, il devint gênant de rester assis là en silence. De plus, il faisait trop froid pour rester immobile. Elle dit quelque chose au sujet du métro qu'elle devait prendre et se leva pour partir.
« Nous devons nous revoir, »
dit-il. « Oui, » dit-elle, « nous devons nous revoir. » Il la suivit sur une certaine distance, irrésolue, un peu en arrière. Ils ne parlèrent plus. Elle ne chercha pas à proprement parler à le semer, mais elle marcha juste à la vitesse suffisante pour l'empêcher de rester à ses côtés. Il s'était figuré qu'il allait l'accompagner jusqu'à la station de métro, mais soudain cette idée de marcher ainsi dans le froid lui sembla inutile et insupportable. Il fut envahi par un désir, pas tellement de s'éloigner de Julia, mais plutôt de retourner au café du Châtaignier, qui ne lui avait jamais semblé si attirant qu'à ce moment. Il eut une vision nostalgique de sa table dans le coin, avec le journal et le jeu d'échecs et le gin qui coulait à flots. Par-dessus tout, il y ferait chaud. L'instant d'après, pas vraiment par accident, il s'autorisa à être séparé d'elle par un petit groupe de personnes. Puis il fit un effort peu enthousiaste pour la rattraper, ralentit, tourna et partit dans la direction opposée. Quand il eut fait 50 mètres, il regarda en arrière. La rue n'était pas bondée, mais déjà il ne pouvait plus la distinguer. Elle pouvait être n'importe laquelle de toutes ces silhouettes qu'il se hâtait. Peut-être son corps plus raide et plus épais n'était-il plus reconnaissable de dos. « Quand cela arrive, » avait-elle dit, « tu le penses vraiment ?» Il l'avait pensé. Il ne l'avait pas seulement dit, il l'avait souhaité. Il avait souhaité que Julia, et pas lui, soit livrée au... Quelque chose changea dans la musique qui se déversait de l'écran tel. Il y eut une note craquante et railleuse, une note jaune. Et alors ? Peut-être n'était-ce pas en train d'arriver, peut-être n'était-ce qu'un souvenir prenant l'apparence d'un son. Une voix se mit à chanter. « Sous le châtaignier florissant, je t'ai vendu et tu m'as vendu. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Un garçon qui passait remarqua que son verre était vide et revint avec la bouteille de gin. Il prit son verre et le renifla. Le breuvage paraissait plus horrible à chaque gorgée. Mais il était devenu l'élément dans lequel il évoluait. Il était sa vie, sa mort, sa résurrection. C'était le gin qui le jetait dans la stupeur chaque nuit, et c'était le djinn qui le ramenait à la vie chaque matin. Quand il s'éveillait, rarement avant 11:00, les paupières collées, la bouche en feu et le dos brisé, il lui aurait été impossible de quitter la position horizontale sans la bouteille et la tasse qu'il plaçait à côté de son lit pour la nuit. Il passait le milieu de la journée assis, le regard vide, la bouteille à portée de main, écoutant les crantelles. De 15:00 à la fermeture, il était un pilier de bar au Châtaignier. Plus personne ne se préoccupait de ce qu'il faisait. Aucun sifflet ne le réveillait, aucun écrantel ne l'admonestait. Occasionnellement, peut-être deux fois par semaine, il se rendait dans un bureau poussiéreux et qui semblait oublié du ministère de la vérité, et travaillait un peu, en tout cas ce qu'il appelait travailler. Il avait été affecté à une sous-commission qui avait germé d'une des innombrables commissions qui s'occupaient des problèmes mineurs que soulevait la compilation de la 11e édition du dictionnaire de la neuve langue. Ils étaient occupés à produire ce qu'ils appelaient un rapport intermédiaire, mais ils n'avaient jamais vraiment bien compris de quoi ils se faisaient les rapporteurs. Cela avait à voir avec la question de savoir si les virgules devaient être placées à l'intérieur des parenthèses ou au dehors. La commission comptait 4 autres membres, tous similaires à lui. Certaines fois, ils ne se rassemblaient que pour se séparer très vite, admettant franchement qu'ils n'avaient pas réellement grand-chose à faire. Mais il y avait des jours où ils s'attelaient à leurs tâches, presque avec enthousiasme, rédigeant les minutes de leur réunion avec une ostentation magnifique et commençant de longues notes de service qu'ils ne terminaient jamais, où les discussions qu'ils étaient censés avoir se nourrissaient d'arguments particulièrement complexes et abscons, avec des marchandages subtils sur les définitions, des digressions sans fin, des querelles, des menaces même, d'en appeler aux plus hautes autorités. Puis soudainement, ils étaient vidés de toute leur énergie, et ils restaient assis autour de la table à se lancer des regards éteints, comme des fantômes disparaissant au chant du coq. L'écrantel resta un moment silencieux. Winston leva la tête à nouveau. Le bulletin. Mais non, il changeait juste la musique. Il avait la carte de l'Afrique devant les yeux, ainsi qu'un schéma du mouvement des armées, une flèche noire s'étirant verticalement vers le sud et une flèche blanche horizontalement vers l'est, juste derrière la première. Comme pour se rassurer, il leva les yeux vers le visage imperturbable du portrait. Était-il concevable que la seconde flèche n'existât même pas? Son intérêt faiblit à nouveau. Il avala une autre gorgée de gin, prit le cavalier blanc et fit une tentative de mouvement. Mais ce n'était évidemment pas le bon parce que... Involontairement, un souvenir lui vint à l'esprit. Il vit une chambre éclairée à la bougie, avec un grand lit et une courte pointe blanche, et lui-même, un garçon de 9 ou 10 ans, assis sur le sol, agitant un gobelet à dés et riant avec agitation. Sa mère était assise en face de lui et riait aussi. Ce devait être un mois avant sa disparition. C'était un moment de réconciliation, alors que la faim qui rongeait son ventre était oubliée et qu'il retrouvait temporairement son ancienne affection pour elle. Il se souvenait bien de ce jour, un jour de pluie battante où l'eau ruisselait sur la fenêtre et où la lumière à l'intérieur était insuffisante pour lire. Dans cette chambre sombre et exiguë, l'ennui pour les deux enfants était devenu insupportable. Winston gémissait et grognait, réclamait futilement de la nourriture, errait dans la pièce, mettait tout en désordre, frappait sur le lambris jusqu'à ce que les voisins finissent par taper sur le mur, tandis que sa petite sœur pleurait par intermittence. Sa mère finit par dire « Maintenant, soyez sage et je vous achèterai un jouet, un beau jouet qui vous plaira. » Puis elle était sortie sous la pluie jusqu'à un petit magasin voisin qui était encore ouvert de temps en temps et en revint avec une boîte en carton qui contenait un jeu des échelles. Il se souvenait encore de l'odeur du carton mouillé. C'était un jeu misérable, le plateau était craquelé et les petits dés de bois étaient si mal taillés qu'ils pouvaient à peine tenir sur leur face. Winston le regarda d'un air boudeur et sans montrer d'intérêt. Mais alors sa mère alluma une bougie, et ils s'assirent sur le sol pour jouer. Bientôt, il était follement excité, criait et riait de voir les Tiddlywinks grimper avec espoir sur les échelles, puis dégringoler à nouveau quand ils tombaient sur les serpents, presque jusqu'à leur point de départ. Ils jouèrent 8 parties, et chacun en gagna 4. Sa petite sœur, trop jeune pour comprendre le jeu, s'était appuyée contre un traversin et riait parce que les autres riaient. Pendant toute une après-midi, ils avaient été heureux ensemble, comme dans sa petite enfance. Il repoussa cette image de son esprit. C'était un faux souvenir. Il était troublé par de faux souvenirs de temps en temps. Ce n'était pas grave tant qu'il les reconnaissait pour ce qu'ils étaient. Certaines choses étaient arrivées, d'autres n'étaient pas arrivées. Il revint à l'échiquier et prit à nouveau le cavalier blanc. Presque aussitôt, celui-ci retomba avec fracas sur le plateau. Winston avait sursauté comme s'il avait été piqué par une épingle. Une sonnerie de trompette stridente avait fait vibrer l'air. C'était le bulletin. Victoire ! Cela signifiait toujours la victoire lorsqu'une sonnerie de trompette précédait les nouvelles. Une sorte d'excitation électrique parcourut le café. Même les serveurs avaient sursauté et dressé l'oreille. La sonnerie de trompette avait laissé la place à un énorme volume sonore. Déjà, une voix excitée se déversait de l'écrantelle, mais dès qu'elle commença, elle fut immédiatement noyée dans une explosion de joie venue de l'extérieur. Les nouvelles s'étaient répandues dans les rues, comme par magie. Il pouvait en entendre juste assez en provenance de l'écrantelle pour comprendre que tout s'était passé comme il l'avait prévu. Une vaste armada navale s'était rassemblée secrètement et avait frappé soudainement l'ennemi dans le dos. C'était la flèche blanche derrière la flèche noire. Au milieu du vacarme, on entendait des fragments de phrases triomphantes.
« Vaste manœuvre stratégique, parfaite coordination, déroute complète, 1,5 million de prisonniers, démoralisation totale, contrôle de l'ensemble de l'Afrique, la guerre s'approche de sa conclusion, victoire, la plus grande victoire de toute l'histoire humaine, victoire, victoire, victoire !»
Sous la table, les pieds de Winston faisaient des mouvements convulsifs. Il n'avait pas bougé de son siège. Mais son esprit courait. Il courait rapidement avec la foule au dehors, hurlant à s'en rendre sourd. Il leva à nouveau les yeux vers le portrait de Big Brother, le colosse qui enjambait le monde, le roc contre lequel les hordes d'Asie venaient se briser. Il pensa que 10 minutes plus tôt, oui, seulement 10 minutes, il y avait encore un doute dans son esprit quand il se demandait si les nouvelles du front seraient des nouvelles de victoire ou de défaite. Ah, c'était plus qu'une armée eurasienne qui avait péri. Il avait beaucoup changé depuis ce premier jour au ministère de l'amour, mais le changement final, indispensable, ne s'était jamais produit jusqu'à ce moment. La voix dans l'écrantelle déversait toujours ses histoires de prisonniers et de butins et de massacres, mais le vacarme à l'extérieur s'était quelque peu apaisé. Les serveurs reprenaient le travail. L'un d'eux s'approcha avec la bouteille de gin. Winston, perdu dans un rêve bienheureux, ne prêta aucune attention à son verre qui se remplissait. Il ne courait plus, il ne hurlait plus. Il était de retour au ministère de l'amour, et tout était pardonné, son âme était aussi blanche que la neige. Il était assis sur le banc des accusés, confessant tout et impliquant tout le monde. Il descendait le couloir carrelé de blanc, avec la sensation de marcher en plein soleil, un garde armé à ses côtés. La balle, longtemps attendue, pénétrait dans son cerveau. Il leva les yeux vers l'énorme visage. Cela lui avait pris 40 ans pour comprendre quelle sorte de sourire se cachait derrière la moustache noire. Quel malentendu cruel et inutile. Quel exil obstiné et librement consenti, loin de cette poitrine aimante. Deux larmes, au goût de gin, coulèrent des deux côtés de son nez. Mais il allait bien. Tout était bien, la lutte était terminée. Il avait remporté la victoire sur lui-même. Il aimait Big Brother.
Fin.
Produit et lu par Pauline Pucciano et Vincent Delépine pour Littérature Audio.